voix nue. Cette semaine, Marie-Laure Delorme rencontre Carla Bruni. Ce soir, la famille, un secret et une sécurité.
Bonjour Carla Bruni.
Bonjour.
Vous êtes top modèle, auteure, compositrice, interprète. Vous avez été, en tant qu'épouse du président de la République, Nicolas Sarkozy, première dame de France de 2008 à 2012. Vous êtes donc connue en France, mais également dans le monde entier. Avant de parler avec vous de la famille, de la beauté, de la musique, de l'amour et du temps, une question, n'êtes-vous pas trop connue? La célébrité que vous avez rencontrée très tôt ne constitue-t-elle pas un obstacle dans votre rapport aux autres?
Alors, je crois que j'avais besoin de la célébrité, moi, et que j'en ai encore besoin. Le problème, c'est que c'est un tout petit peu comme avec l'addiction, la drogue ou l'alcool, par exemple la cigarette. Moi, j'ai été longtemps addict à la cigarette. Le problème de la cigarette, c'est qu'évidemment, on n'en a jamais assez. Le problème de l'addiction, c'est qu'on n'en a jamais assez. Le problème de la célébrité, c'est qu'on n'en a jamais assez. Quand on l'aime, quand on la voulait comme moi. Et il y a des gens qui sont devenus célèbres par hasard. Par exemple, leur talent les a par hasard menés un peu dans l'œil des autres. Et je pourrais pas vous citer ces gens-là, mais il y en a sans doute plein. Si on cherchait parmi les gens célèbres, il y en a sans doute plein qui donc, par exemple, on a l'impression quand on entend quelqu'un comme Brigitte Bardot, on a l'impression que sa célébrité lui a explosé la vie, quoi. Mm-hmm. Elle l'analyse pas forcément, mais on sent qu'il y a un rejet très fort de ça. On a la même impression avec d'autres gens. Je prie Brigitte Bardot parce qu'elle était si célèbre, et si... Et pour des raisons si évidentes que on imagine que toutes les jeunes femmes seraient heureuses de ça, pas tellement elle.
Tout à fait. Et à son époque, ça a été la femme la plus célèbre du monde.
Et donc, ça lui a pesé. Bon, pour revenir à la question que vous m'avez posée, moi, ça m'a jamais pesé. Mais jamais.
Parce que vous l'avez voulu.
Je crois parce que j'en avais besoin. Et j'ai même besoin de ce que ça fait entre moi et les autres. Et ça met pas de distance entre moi et les autres. Non, ça me permet au contraire d'être gentille plus que ce qu'ils croyaient, de les surprendre. Et ça donne des idées préconçues. Et j'adore les idées préconçues parce qu'elles facilitent la vie. Parce que les gens sont un peu coupables d'avoir des idées préconçues quand vous êtes l'opposé. Et ça me permet, je dirais pas de séduire, mais de convaincre. Parce que la séduction, quand même, elle nous mène à un objectif... de conquête sexuelle et tout ça, c'est pas du tout ça la célébrité. C'est pas du tout une conquête entre deux personnes. Ou... Ça vous apporte rien de profond, rien d'important.
C'est un jeu.
Je crois que c'est un regard. En tout cas, pour moi, c'était un regard. En tout cas, j'en avais grand besoin. Curieusement, j'en ai encore besoin parce qu'on en a jamais assez. Et c'est ça que j'ai... Mais ce que j'aime. J'aime moi aussi, c'est comprendre pourquoi. Ça me plaît de comprendre, parce que ça amadoue les choses. Sinon, elles sont trop brutales. Moi, j'ai toujours eu envie d'être célèbre. Et ça ne me gênait jamais en rien. En rien.
Vous l'avez dit, la célébrité, c'est un regard, et que vous aviez besoin de ce regard. On va commencer par le premier des regards, c'est celui de vos parents sur vous. Dans quelle famille vous êtes née? Et avant d'en venir concrètement à votre famille, le mot famille, tout simplement, ça évoque quoi pour vous? Est-ce que ça évoque de la tendresse, des portes qui claquent, des mots d'amour, des engueulades? Est-ce que c'est doux ou est-ce que c'est une tempête, la famille?
La famille, pour moi, c'est doux et c'est même assez absent. Mais le premier mot que ça évoque, c'est la sécurité. Avec peut-être une certaine absence. Et d'ailleurs, j'ai gardé cette habitude-là, c'est-à-dire je suis tout le temps dans la maison avec mes enfants, mais assez absente. Je suis dans cette pièce-là, par exemple, où on est maintenant, bien plus souvent que dans les pièces communes.
Pour décrire cette pièce, qui est la pièce c'est dans laquelle studio. Vous travaillez, voilà, c'est votre studio. Dans quelle famille vous êtes née?
Je suis née dans une famille très affectueuse, une famille très privilégiée. notamment pour cette époque. Je ne sais pas si on serait encore des gens privilégiés aujourd'hui, mais à l'époque où je suis née, à la fin des années 60, on était encore une famille incroyablement privilégiée. Pas particulièrement, pas seulement par le statut social de mon père. Ma mère était d'un statut social moyen même, et en plus elle avait été, elle venait d'une famille qui avait été ruinée, donc déchue en quelque sorte. Et mon père, au lieu, venait d'un statut social vraiment très haut, c'est ce qu'on appelait l'industrie, l'aristocratie industrielle, blablabla, dans le nord de l'Italie. C'était assez peu de familles qui étaient concernées par ça, parce que c'était des gens qui effectivement avaient une entreprise en général, l'argent et les avantages que cette entreprise pouvait les apporter, mais aussi une éducation et une culture qui sont pas du tout communes normalement aux gens qui ont de l'argent. Mon père était fortuné, mais extrêmement éduqué. Donc en fait, ça a fait de ma famille une famille dont la richesse n'était quand même pas l'argent.
L'art est essentiel.
Oui, mais vraiment l'éducation, même la dureté de l'éducation de mon père. Mon père avait été
Quelle élevé. Valeur il vous a transmis ?
Assez peu de valeur, mais une grande structure. Il y avait assez peu de transmission du temps de mes parents. Mes parents n'étaient pas les gens qui... Mes parents venaient d'une époque où ce qui comptait, c'était leur vie, pas celle de leurs enfants. Donc ils passaient pas du tout du temps à s'occuper de nous éduquer. Ils étaient comme ils étaient et on prenait ce qu'il y avait à prendre. Mais comme ils étaient tels qu'ils étaient, on a pris ce qu'il y avait à prendre. Donc, mes parents, par exemple, étaient généreux, ce que les gens fortunés sont pas forcément. Ils jugeaient pas les autres. Normalement, les gens d'une certaine caste sociale jugent les autres, quelles qu'elles soient, Et eux, pas du tout. J'ai été stupéfaite quand j'ai rencontré le jugement des gens. Je l'ai rencontré assez tard, en plus, parce que je suis dans la famille
moral,
de la...
Ouais,
le jugement moral. Le jugement moral, le jugement... mes parents ne jugeaient jamais personne. S'ils aimaient pas les gens, ils les voyaient pas. Mais ils voyaient pas des gens qui jugeaient. Il y avait quelque chose dans l'amitié et dans le lien qui était exempte de tout jugement. Et il y avait une espèce de goût pour la liberté, la culture, que j'ai jamais retrouvé chez des gens de l'establishment.
Vous êtes arrivée en France vers l'âge de 7 ans,
ouais,
à peu près
6 ans et demi.
Dans quelles conditions vous êtes arrivée en France? Est-ce que c'était une arrivée heureuse?
Une arrivée très... tranquille, très heureuse. Ma grand-mère, la mère de ma mère, est française, était française. Toute la famille, évidemment, de ma grand-mère et de ma mère était un peu française. Nous sommes piémontais. Autant vous dire que le patois qu'il y a chez nous au Piémont et celui qu'il y a de l'autre côté du Mont-Blanc, par exemple, dans les vallées d'Aoste, les Alpes, etc., c'est exactement la même langue. C'est-à-dire, nous, on est vraiment les plus français des Italiens, les Piémontais. On a vraiment la même langue. On a beaucoup, beaucoup de mots en dialecte piémontais qui sont des mots français, beaucoup dans l'accent. Plus ma mère qui était à moitié française, mais ma grand-mère et ma tante qui vivaient avec nous. Et on est tous arrivés en groupe ici, donc c'était une arrivée très 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 en douce, amortie par d'abord le confort. On habitue à un hôtel particulier rue Lascaz, merveilleux, immense, avec un grand jardin. Et puis la tranquillité d'être toujours quand même dans ce groupe. On était venus avec mes parents, bien sûr, mon frère, ma sœur, ma grand-mère, ma tante, mais aussi des gens, par exemple, qui travaillaient chez nous à la maison. Et on vivait tous au même endroit.
Vous avez été immédiatement accueillie par la bourgeoisie française?
Non, la bourgeoisie française, ils sont très fermés. Ils ne nous ont pas du tout accueillis. Et c'est peut-être ça la grande différence de jugement que j'ai ressentie, c'est que mes parents avaient une manière de voir les choses plus italiennes, peut-être. C'était ça. J'ai été très surprise par la fermeture. Mes parents m'ont raconté... Ils m'ont raconté qu'ils étaient arrivés à Paris, qu'ils avaient ouvert les portes de cette maison merveilleuse, qu'ils avaient invité les gens dîner. Et mes parents travaillaient dans la musique classique, mon père était compositeur, ma mère pianiste. Donc des gens de l'Opéra Paris, ou des gens du Ballet de Paris, ou des chefs d'orchestre, etc. Et que personne, jamais, contrairement à l'Italie, les avait réinvités. Mais même pas une seule fois. Donc à la fin, ils ont eu des amis italiens à Paris.
Vous pensez que ça, c'est une blessure ou c'est un mot trop fort?
Un mot trop fort.
Ils s'en sont accommodés?
Oui, mes parents étaient très puissants, ils s'en sont totalement accommodés. Je pense que le complexe social, il vient d'un décalage, donc tout le monde peut le ressentir. Je pense que la reine d'Angleterre, mise dans une certaine situation, peut ressentir un complexe social, même si c'est pas son histoire, que c'est impossible que ça rentre en elle, etc. Mais par exemple, moi, je suis quelqu'un de j'ai pas de complexe social, mais je n'aime pas le rejet social, comme si j'étais d'une autre famille. Et j'ai découvert qu'au fond, j'étais un peu d'une autre famille. Donc vous voyez ce que je veux dire? Ça vient toujours de quelque chose de réel. Et c'est une affaire de sensibilité. Donc pour mes parents, c'était pas une blessure, mais un constat. Mais ils n'étaient pas fragiles, mes parents. Vous comprenez? Ils n'étaient pas fragiles.
On va venir à cette impression d'appartenir à une autre famille. Vous avez perdu votre père quand vous aviez 28 ans.
Oui, très adulte.
Très adulte, à la fois adulte. Très jeune. C'est jeune, 28 ans, pour perdre son père.
Et je crois qu'on mourait à 28 ans jusqu'à il y a très peu de temps.
Donc ça vous semble vieux.
Oui, ça me dit, je me dis, je sais pas. Je regardais par hasard, j'ai vu qu'il y avait une très très belle réédition de La Reine Margot, le film de Patrice Chéreau. Et puis je regardais le livre d'Alexandre Dumas, La Reine Margot, et je me suis rendu compte que, évidemment, donc Henri III a été joué par Jean-Hugues Anglade, Isabelle Adjani, c'était La Reine Margot et tout ça. Oui, mais dans le vrai livre, ils avaient 14 ans, 15 ans. La Reine Margot était mariée à 15 ans et à 17 répudiée parce qu'elle n'avait pas pu faire l'enfant. Et quand elle se marie avec Henri de Navarre, elle a 19 ans. Et le duc d'Anjou, il en a 16 et demi. Donc tout le monde se dit, quelle violence. Ils s'empoisonnent, ils se poignardent. Oui, mais ils ont 16 et demi, c'est les rois de France. Non, mais vous voyez, c'est...
C'est vrai que notre rapport à l'âge a beaucoup changé.
A beaucoup changé. Depuis qu'on a les antibiotiques, la pilule. Mais, et donc, est-ce que c'est jeune, 28 ans, pour perdre son père?
Moi, je trouve que c'est jeune, vous, non. Est-ce que ça a marqué un avant, après?
Oui, ça a marqué un avant, un après, comme toutes les morts des personnes très symboliques, quelle que soit la proximité qu'on a avec eux. Je pense que même un père que vous n'avez pas connu, ça marque un avant, un après, quand il meurt. On a... Je ne sais pas s'il y a d'autres animaux qui font ça, mais nous, on est les seuls à inventer des trucs, quoi. Donc le symbole, ça, c'est une belle part de cette invention. Parce qu'on s'est construit quand même, c'est comme un peu du sacré. Donc j'imagine que c'est comme un... J'ai toujours l'impression que c'était un déplacement architectural, la mort des parents ou la mort d'autres gens fondamentaux, des frères et des sœurs ou des parents. Même si on les aime pas, même si on les voit pas, même si on n'est pas construit avec eux, on est construit sans eux, donc on est construit avec eux. On peut pas échapper à être construit avec nos de eux. On peut pas y échapper. Donc je pense que quand ils meurent, dans notre cas où on était une famille plutôt affectueuse, ça fait un choc assez frontal et un déplacement comme des plaques tectoniques.
D'autant plus que vous avez appris à cette occasion-là que votre père n'était pas votre père biologique.
Allez, je ne l'ai pas appris tout de suite, mais je ne me suis sentie pas du tout bien à sa mort. Et comme j'étais une jeune femme très, très tranquille, libre, et j'ai été étonnée par le choc que sa mort m'a procuré, et c'est là où j'ai commencé à enquêter. Et c'est après, 6 mois après, que j'ai... Disons que, en fait, mon père avait raconté cette histoire à ma sœur, qui est très très proche de moi, ma sœur aînée.
Valeria Tedeschi, voilà. Qu'on connaît en tant qu'actrice, réalisatrice.
Exactement. Et il avait parlé de ça à Valeria, qui n'osait pas me le dire, parce qu'elle était troublée par la situation. Bien que mon père, en le disant cela, lui avait dit pour une raison, quand même. Donc elle avait en elle quelque chose qui lui disait, il me l'a quand même dit. Et il lui a dit, ça c'est typique de mes parents, de nos parents, surtout ne dis pas à ta mère, je voudrais pas la vexer. Mais il a pas dit surtout ne dis pas à ta sœur. Au contraire, il lui a dit. Donc c'était pour passer le mot quand même, je pense. Mais ça a pris 6 mois pour que je lui fasse un petit peu cracher le morceau parce qu'elle voulait pas, elle avait peur que ça me traumatise. Donc comme il lui avait dit qu'à elle, elle était allée tout de suite voir ma mère, elle a pas tenu. Elle a pas fait ce qu'il lui avait dit. Elle s'est précipitée sur ma mère, qui est une mère fantastique parce que elle est une personne tout à fait extraordinaire et surtout, en tant que mère, elle ne provoque jamais la culpabilité. C'est quelqu'un de très écrasant, de très très indépendant. C'est quelqu'un qui me demande encore aujourd'hui, par exemple, pourquoi j'ai arrêté de fumer. C'est ma mère. Bon, et donc, je sais pas, moi, je me bats pour que mon fils ne fume pas. Il fumera pas, d'ailleurs, mais ça me semble fou de mettre quelqu'un au monde et après de lui passer une clope, quoi. Mais ça, c'est ma mère. Et donc, ma mère ne fait pas pitié. Donc, ma sœur n'a pas eu pitié d'elle. Ce qui est une assez belle chose pour se construire, en tout cas, comme femme, je trouve. Et ma mère a répondu totalement tel que ma mère est. Elle a dit « Ah bon ? Ton père était au courant ? Mais c'est dingue, ça, il m'a rien dit pendant 43 ans !» Et donc, tout le monde l'a extrêmement bien pris. Et ensuite, à force, j'ai questionné ma sœur. Et ma sœur, de guerre lasse, m'a dit « Écoute, il faut que je te dise. »
Avec le recul, parce que vous en parlez avec beaucoup de légèreté, mais avec le recul, c'est quoi? C'est 30 ans de mensonges, 30 ans de silence, 30 ans d'absence?
Oui, alors ce qui m'a pesé, moi, c'était vraiment l'absence et elle ne m'était pas réservée. Hein. Mes parents étaient très occupés à faire leur vie, qui était une vie splendide. Ils ont eu raison, parce que plus personne n'a une vie comme eux maintenant. Donc, ils ont eu raison de profiter. Et même si vous et moi, par exemple, on essaie maintenant à leur place, on n'aurait pas la vie comme eux, parce qu'on est à notre époque. C'est une époque quand même hyper pourrie par rapport à la leur et à celle de notre naissance, qui était une espèce d'époque d'espoir absolu. Donc mes parents étaient occupés ailleurs. Il n'y a que l'absence qui a été cruelle un petit peu pour moi. Parce que le silence et le mensonge, c'était vraiment des gens de cette époque-là. C'était des gens pour qui le silence était de l'or. Ça se faisait pas de dire à un enfant toute la vérité, mais quelle horreur. Et donc, quelle idée saugrenue. Et en plus, ils savaient pas, tous ces gens comme Françoise Dolto, etc. Ils savaient, je sais pas, il y a quelque chose chez eux qui était totalement d'un autre monde, quoi. Et ma mère a ouvert des yeux comme des soucoupes quand je lui ai dit « t'aurais pu me le dire ». Et elle m'a dit « mais tu es folle, mais comment veux-tu que je te dise une chose pareille ? Mais enfin, ça t'aurait pesé dessus, mais pourquoi le dire ? Etc. Mais on n'est pas des Américains, mais enfin chérie, il faut se mentir. Ne prends pas cette tangente-là. Tu dois protéger les gens que tu aimes. » Et on les protège par le mensonge. Et puis ça n'était pas un mensonge actif, parce que vous savez, en Italie, il n'y avait pas le divorce. Donc mes parents, ils se sont mariés avec dans l'idée de jamais divorcer. Ils ont d'ailleurs jamais divorcé. Mais ça n'était pas dans leur pensée de divorcer. Moi, par exemple, la première fois que je me suis mariée, c'était à 40 ans, donc assez tard. Et curieusement, je suis un peu comme mes parents, je suis pas trop pour le divorce. C'est pour ça que je me suis pas mariée avant d'être prête et désireuse de le faire avec précisément cet homme-là. Mais lui, il a déjà divorcé deux fois. Donc, on sait bien, lui et moi, que si on s'aimait plus, on se séparerait. Mes parents, non.
Est-ce que vous avez été le fruit d'un amour, hein?
Oui, moi je crois que j'étais le fruit d'un amour. J'ai été le fruit génétique d'un amour, certainement. Mais j'ai aussi été le fruit de l'amour de mes parents. Parce que accepter le compromis, savoir quelque chose, ne jamais le dire, aimer quelqu'un et le respecter jusqu'à la fin, c'est des anciens mariages, mais je crois que je suis le fruit de ça aussi. Mon équilibre est le fruit de l'amour de mes parents et pas du désir de ma mère et de mon père génétique. Mon équilibre est le fruit de l'éducation et de l'amour de mes parents qui étaient très peu là, mais qui étaient très équilibrés. Et tout était très, très stable chez nous. Et mon équilibre, c'est la générosité de mon père, qui savait que j'étais pas génétiquement son enfant et qui m'a élevée exactement comme les deux autres. Et la joie de ma mère, qui a toujours aimé vivre et qui donc ne voyait pas du tout le problème de faire ça. C'est quand même quelque chose d'assez grave de faire ça. Et ben non, encore aujourd'hui, si vous lui faites une avoue nue, vous verrez qu'elle n'a pas l'ombre d'un remords. Elle comprend même pas qu'on puisse lui poser la question. Elle trouve ça merveilleux, elle trouve ça sympathique. Elle adorait mon père, mais ils étaient plus amants. Donc, il a pris une autre amoureuse et elle a pris un amant. Et alors? Et d'où on se permet de juger ça, nous, cette génération de crétins qui n'arrivons pas à rester ensemble plus que deux mois? Et tout est à part comme ça, blablabla. Et à la fin, elle est assez convaincante.
Et l'amant en question, qui est donc votre véritable père,
génétique,
était beaucoup plus jeune que votre mère.
Voilà, il avait 18 ans. Et elle, 40. Et mon père, mon vrai père, 56. Mon père... pas génétique. Mon vrai père, pour moi, c'est celui qui m'a donné son nom et qui m'a élevée. Bien que j'adore mon père génétique, mon jeune père génétique, qui est quelqu'un de ma famille.
Mais votre vrai père, ça reste Alberto Bruni Tedeschi.
Bah oui, oui, quand même, c'est lui qui s'est tapé, parce que vous savez, après, c'est pas théorique, hein, la paternité.
Il y a la famille dont vous venez, mais il y a aussi la famille que vous vous êtes construite. Vous êtes mère de deux enfants, vous avez un fils avec Raphaël Antoven, une fille avec Nicolas Sarkozy. Est-ce que pour vous, être mère, c'était une évidence ?
Non, et c'était pas une évidence. Et au moment où je vous entends dire cette phrase, je vous regarde dans les yeux parce que je reste concentrée et tout ça. Mais en vérité, ma pensée essayait de s'échapper parce que je pensais que je n'aurais absolument jamais d'enfant. Et c'était pas du tout une évidence. Et je crois que c'est une espèce de miracle qui est arrivé relatif aux rencontres avec les deux pères de mes enfants. Et je pense que jamais, je n'imaginais pas les grossesses, je n'imaginais pas la possibilité de m'occuper de quelqu'un d'autre tout le temps. J'avais l'impression que ça serait comme un ouragan et j'avais raison. Mais trop tard. Et puis la seconde fois, je pensais que la première avait été un tel ouragan que la seconde fois, bien sûr toujours l'amour, le désir et la rencontre avec le père de ma fille, mais il y avait aussi la nécessité d'alléger le poids pour mon fils, quoi, le poids de moi. Parce que moi, j'ai pas du tout été une mère comme ma mère. J'ai été une mère, je suis une mère extrêmement pas désinvolte. Or, la désinvolture de ma mère, c'est ma liberté. Et notre liberté. Et je me dis aujourd'hui, je le dis souvent à mon mari, je dis, mais tu te rends compte comment on s'en occupe? Tu crois pas? Il m'a dit, non, mais on est cons, on devrait pas. Mais pourquoi on fait ça? Je dis, mais je sais pas, est-ce que tu crois qu'on compense? Il m'a dit, on compense. On compense. Je dis, mais tu crois qu'ils vont être comment? Parce que lui, il en a déjà trois adultes. Et les trois adultes, mais ils sont merveilleux. En fait, on gagne à faire comme on fait nous, à compenser, à être tout le temps là, à leur dire ces mots d'amour. Nos parents nous disaient pas des mots d'amour. Vous nous dites des mots d'amour, vous? Eh ben, on se dit, ils vont être plus mous. Oui, ils sont plus mous. Mais ils sont plus tout le reste aussi. Ils sont plus gentils, ils sont plus beaux, ils sont plus affectueux. Et ils sont pas comme nous. Nous, moi, j'ai frôlé la vie de kamikaze. J'ai frôlé la vie de la fille de l'alcool, de la drogue, de tout ça. Je l'ai pas fait parce que j'étais sauvée un peu par ma coquetterie. Et peut-être par un équilibre que j'arrive pas à formuler, mais qui existe en moi. Mais moi, j'ai eu l'impression quand même d'un abandon, si vous voulez. Et la partie de la bâtardise et d'être la fille de quelqu'un est infiniment moins importante que le solitude, quoi, dans la toute petite enfance, la solitude.
Vous êtes fille, vous êtes mère, mais vous êtes aussi sœur. On parlera plus tard de votre frère, mais quel rapport vous avez avec votre sœur ?
Il est certain que je suis très très proche de ma sœur, avec laquelle j'ai grandi, Valeria Bruni Tedeschi. D'abord, c'est ma grande sœur, elle a 3 ans de plus que moi. Ensuite, elle a que 3 ans de plus que moi, donc on était tout le temps ensemble, mises dans la même barque, si j'ose dire. On avait même les mêmes vêtements, ce qui la rendait furieuse. Ça se faisait à notre époque, on habillait les enfants pareil. Et très très bon rapport avec ma sœur. J'ai toujours pensé que si ma sœur n'avait pas existé, je serais morte de silence. Et après, ma sœur, elle n'est pas du tout comme moi. Elle a un tempérament extrêmement... Elle est à la limite du truc totalement extraordinaire. C'est-à-dire, elle est presque borderline. Elle n'a pas digéré les choses comme moi. Elle n'a pas le même sang, tout à fait, que moi. Elle a le sang de mon père, et mon père était extrêmement complexe. Mon père, par exemple, faisait des dépressions. Donc, il était compliqué. Mon père parlait pas, etc. Et ma sœur, on sent qu'on n'est pas du même sang quand on est toutes les deux ensemble. Parce qu'elle, elle a pris... Moi, j'ai beaucoup pris du côté de mon père génétique, en caractère et en physique. Et elle, beaucoup pris du côté de notre vrai père, en caractère et en physique. Donc on est en sorte réunis par ma mère qui n'est pas la reine du lien. Donc le lien que j'ai avec ma sœur est très particulier parce que pour moi, ma sœur est la personne la plus stable, la plus équilibrée, la plus calme du monde. Elle est cette personne qui me protégeait, qui m'indiquait la route à suivre et elle le demeure aujourd'hui. Et puis je vous la mets devant et c'est quelqu'un d'autre. Donc je sais pas, souvent je lui dis, tu sais, n'essaie pas de me le faire à moi parce que moi je sais comment tu es.
Vous avez parlé de borderline, de la dépression de votre père. Est-ce que ça, c'est des choses dont vous avez pu avoir peur pour vous ou pas du tout? Vous êtes dit de temps en temps, je pourrais être dépressive, je pourrais être folle ou absolument pas. Ce sont des spectres que vous tenez très loin de vous.
Non, je les tiens pas très loin de moi. J'ai l'impression que ça pourrait jamais m'arriver, mais je suis pas sûre que ce soit ça. C'est peut-être comme ça avec toutes les maladies. Parce que les gens qui ont une maladie, je parle pas d'une maladie mentale. La dépression, on sent bien que quand c'est radical, c'est un peu une sorte de maladie. On sent bien que c'est comme une couleur qu'on a en soi. J'ai toujours l'impression que j'avais pas ces couleurs-là. Et je suis attirée par les gens fragiles. J'ai même des amis qui ont des véritables maladies qui se sont déclenchées bien après le début de notre amitié. Donc je m'approche facilement des gens fragiles.
Vous êtes présent pour eux ?
Oui, et j'en ai pas peur. J'en ai beaucoup moins peur que beaucoup de gens. Je m'en rends compte quand j'ai des gens, par exemple, qui sont des amis proches, qui sont fragiles. J'ai une amie, par exemple, qui est devenue très, 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 très schizophrène. Enfin, schizophrène, parlons simplement. Pas la peine de dire très schizophrène, ou on est schizophrène ou on l'est pas. Et il suffit d'aller d'ailleurs la voir, par exemple, pour se rendre compte que ils sont vraiment. C'est une personne qui maintenant est d'un un autre endroit que nous, notamment par rapport avec le langage et même le corps. Au début, c'était que le langage, mais maintenant, ça a rattrapé le corps. Donc, j'ai pas peur des gens fragiles. Je suis attirée par les gens fragiles, mais ma sœur n'est pas fragile. Non, elle est complètement en dehors de l'ordinaire. Elle n'est pas comme les autres, quoi. Et elle se contient que dans certaines circonstances, les circonstances professionnelles, par exemple, en famille, elle se contient moins. Mais elle est aussi habituée à ce qu'on lui. Elle est. Les gens l'acceptent beaucoup. Ils sont beaucoup sous son charme, quoi. Vous voyez, parce que elle est comme elle a beaucoup beaucoup de charme. Évidemment, moi, par exemple, c'est pas cet aspect-là qui me charme d'elle. Donc avec moi, elle est toujours en train d'essayer d'avoir l'air normal. Et l'autre jour, elle faisait sa valise comme dans les films. Vous savez, personne ne fait sa valise comme ça. Vous avez remarqué que dans les films, les gens se précipitent en hurlant, puisque c'est comme ça, Marie-Laure, tu vas voir. Paf, ils prennent la valise, ils la jettent sur ce lit. Et je pars. Clac, ils prennent tous les cintres. Boum, ils jettent tout dans la valise sans plier. Non mais... Donc elle faisait sa valise comme ça. Donc j'étais atterrée, assise sur un fauteuil à côté d'elle, sans commentaire. Et là, elle me dit, mais je m'en rends compte, tu sais, que je fais la valise comme ça. Ça m'a fait plaisir, parce que c'était spécifique pour moi. Je pense qu'elle ne dit pas ça à ses amis.
Il y a un roman de Marine Diaye qui s'appelle « Trois femmes puissantes ».
Je ne l'ai pas lu.
Est-ce que vous diriez que votre mère, vous et Valéria Bruni-Tedeschi, vous êtes trois femmes puissantes à votre manière ?
Oui. Entre la chance qu'on a eue, en vérité la chance, la protection, enfin le hasard qu'on a eu dans la vie, donc on n'a pas été en position de victime, quoi.
Merci Carla Bruni, à demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Marie-Laure Delorme avec Carla Bruni. À voix nue, réalisation Lionel Quentin, prise de son Romain Luquiens, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.